Bonjour, c'est Géraldine Demory, vous écoutez Objectif Terre, le podcast environnement d'RMC. Est-ce qu'on pourrait un jour se passer totalement de viande ? En tout cas, ça fait partie des pistes pour limiter le réchauffement climatique. C'est d'ailleurs ce que préconise le dernier rapport du GIEC, consommer moins de viande quand c'est possible, manger local, des fruits et légumes de saison. Si tout le monde s'y mettait, on pourrait réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre. En France, la loi Egalim va dans ce sens. Elle prévoit notamment qu'à la cantine, au moins un repas végétarien par semaine soit proposé aux enfants. Et certaines collectivités vont même plus loin. Paris propose maintenant 2 repas végétariens par semaine. Et à Grenoble, c'est même 100% des repas proposés dans les écoles primaires. Mais c'est loin de faire l'unanimité chez les parents d'élèves qui réclament de la viande. Bah oui, en France, on aime ça, la viande. Et on en consomme même 2 fois plus que la moyenne mondiale. Et si vous voulez vous faire un petit plaisir au restaurant, pas toujours facile de trouver un menu végétarien, c'est même parfois mission impossible. Pourtant, la cuisine végétale ne manque pas de saveur.
Objectif Terre, un podcast RMC avec Géraldine Demory.
Claire Vallée, bonjour.
Bonjour.
Alors merci beaucoup d'être en studio avec moi aujourd'hui. Vous êtes la première chef à avoir reçu une étoile au guide Michelin pour une cuisine 100% végétale. Alors déjà, bravo.
Merci.
À vous. Vous avez complètement ouvert une voie, hein. c'est pas rien. Pourtant, au départ, je crois que vous n'étiez pas forcément prédestinée à faire de la gastronomie.
Alors, non, pas vraiment. Disons que j'ai commencé par des études d'archéologie. Donc, j'ai passé divers masters, etc. Donc, pour arriver à un niveau conséquent de docteur en archéologie. Et pour financer mes études, comme tout bon étudiant, je travaillais à droite et à gauche. Et la restauration a fait partie de ma vie, mais surtout en salle au départ. Hein. Bon, on ne parle pas de cuisine. De fil en aiguille, j'ai été amenée à bouger sur la Suisse, où j'ai trouvé une place pour financer un petit peu mes études en parallèle, en salle. Et finalement, je ne m'y suis plus. J'ai adoré, je suis restée et on m'a proposé à un moment une place de chef pâtissière et je me suis formée en fait avec des chefs sur place, etc. Et ça m'a passionnée. Donc c'est parti comme ça, la cuisine en fait.
Et qu'est-ce qui vous a amené à la cuisine végétale ensuite ?
Alors c'est un déclic, c'est bon à l'époque hein, en Suisse, bon c'est carné, hein, c'est comme la France, hein, donc c'était pas là où j'ai découvert le végétal, j'ai découvert vraiment en Thaïlande, donc j'ai parcouru un peu le monde. Mais je me suis posée en Thaïlande pendant un an. Et en Thaïlande, il y a quand même 2 écoles. Bon, bah, il y a une culture carnée, c'est sûr. Mais il y a aussi une culture qui est très végétale grâce à des religions comme le bouddhisme ou le taoïsme où on exclut quand même les viandes et les protéines animales en général. Et on remplace par des substituts comme le tofu, le seitan, le tempeh, c'est des choses qui sont assez développées. Et forcément, on a aussi extrêmement de goût comme l'umami, qui est véhiculé par des misos, des fermentations, aussi les racines, les légumes, les fruits, les plantes. Enfin, c'est assez infini. Et je me suis dit, mais tiens, c'est quand même fou, on arrive à avoir énormément de goût, mais sans avoir de matière animale. Petit à petit, de fil en aiguille, quand on commence à s'intéresser à la cause animale, à la défense, bon voilà, ce qui se passe un peu dans les abattoirs, il n'y a pas que les abattoirs, mais voilà. Quand on commence aussi à se rendre compte de ce que l'impact en fait écologique à la consommation de viande ou de produits laitiers, on commence à réfléchir autrement.
C'est à ce moment-là que vous montez votre restaurant Ona à Arès dans le bassin d'Arcachon. Ça veut dire quoi Ona?
Ona, ça veut dire origine non animale. Donc ça veut dire tout simplement ça.
Oui, il n'y a pas besoin d'explication.
Non, je pense que c'est porteur déjà, en sens.
Alors, c'est avec ce restaurant que vous avez eu votre étoile Michelin.
Oui.
Mais pas seulement, vous avez aussi reçu une étoile verte qui montre que vous êtes dans une démarche éco-responsable dans ce restaurant. Alors qu'est-ce que ça implique l'étoile verte ?
L'étoile verte, ça implique déjà une démarche, on va dire, au niveau de l'encadrement. J'avais mis en place des systèmes de compost pour récupérer au maximum les déchets. J'ai fait appel aussi à une société qui s'appelle Enercop pour l'électricité. Donc c'est les énergies renouvelables. Je travaille uniquement aussi en local. Au maximum en local, avec des fermes bio ou au moins raisonnées. Développer aussi tout un réseau local avec les fournisseurs. La démarche, on va dire, responsable, c'est d'avoir en fait une démarche un peu plus green.
C'est pas que dans l'assiette, c'est dans tout le restaurant.
C'est aussi dans la démarche, dans le fonctionnement d'un restaurant, quels produits on va utiliser. Nous, on essaye d'avoir des produits qui sont aussi biodégradables ou des choses comme ça, au maximum.
Vous nous le disiez, hein, vous voyagez beaucoup un petit peu partout dans le monde pour trouver notamment des nouvelles saveurs. Alors comment on voit la cuisine végétale à l'étranger ? C'est très différent de la France ?
Déjà, il faut savoir qu'il y a des pays qui n'ont pas accès à la viande. Donc déjà, parce que ça coûte quand même cher et ça demande une grosse logistique. Donc il y a déjà des pays comme l'Inde où ils ont déjà un régime qui est beaucoup plus végétarien, voire végétalien dans certaines parties du monde. Ensuite, il y a aussi des pays comme les États-Unis ou en Europe où la cuisine végétale fait partie aussi un peu des meubles depuis de longues années. En France, commence. C'est un peu plus compliqué, ça commence, parce qu'on est aussi une nation qui consomme énormément de viande. C'est inscrit aussi un peu dans le patrimoine gastronomique de la France, et les dérivés aussi, comme le lait, la crème, les œufs, etc., qui font partie vraiment de la pâtisserie.
Oui, c'est vrai qu'en France, on entend souvent qu'un repas sans viande, c'est pas un vrai repas, que les légumes, c'est pas assez nourrissant, c'est un petit peu fadasse. Alors, comment vous faites pour nous faire aimer les légumes? Sans dévoiler de secret, est-ce que vous avez une petite recette que vous pouvez nous dévoiler?
Les légumes, déjà, il y a différentes façons de les cuire. Ça dépend. On a beaucoup de cuissons. On peut adapter toutes les cuissons viande sur un légume, par exemple. Donc, c'est assez passionnant. Et surtout, les légumes, ils ont une particularité. C'est qu'ils ont aussi de l'umami en eux, comme les viandes. Donc, une fois bien grillés, bien rôtis, on arrive à avoir une espèce de sucre aussi qui est intéressant et qui se rapproche d'un sucre de viande. Donc, après, les faire braiser longtemps ou les faire mijoter. Il y a plein de techniques. Après, pour vous donner une recette, on est en automne, on pourrait faire des gnocchis avec des champignons de la forêt, bien revenus, avec une petite crème végétale à base de pignons de pin, comme ça on rappelle aussi la forêt. Enfin, moi je suis dans une région où il y a beaucoup de pin, donc forcément on utilise les pignons de pin et ça peut être assez gourmand.
Vous nous faites saliver là, en tout cas. Est-ce que vous avez un plat signature, un petit peu le plat que vous préférez?
Alors, j'ai pas vraiment de plat signature parce que mes menus fonctionnent au rythme des saisons et avec des produits de saison. Donc, en fait, on change tout le temps. Donc, c'est vrai que les plats signature, j'en ai pas vraiment. Je peux vous donner un plat, j'aime bien faire à la saison, on va dire, de printemps, donc c'est un petit peu passé, mais bon. On va faire un chaud-froid d'asperges avec une vinaigrette acidulée au poivre de timut et au pamplemousse. Petite fraise snackée aussi et fumée et fraise fraîche.
Ça fait envie. En quoi cette cuisine végétale, elle est meilleure pour la planète?
Alors, c'est une des solutions, mais ce ne sera pas la solution unique, ça c'est sûr. Elle est meilleure pour la planète parce que un animal, surtout comme un bœuf, on parle vraiment des grosses bêtes, consomme énormément d'eau et aussi rejette énormément de déchets, que ce soit en gaz ou alors en salissement des sols, ce qui entraîne aussi des dérèglements dans les rivières, etc. etc. Donc forcément, le végétal, ça devient une des solutions. Ce n'est pas, je pense, la seule solution, mais en tout cas, c'est moins salissant. Et aussi, dans le sens où un bœuf qui se nourrit en soja, on peut aussi nous le consommer directement. On n'a pas besoin de passer par un bœuf parce que les protéines végétales sont les mêmes. Je ne parle pas que du soja, parce que souvent on fait une corrélation entre le soja qui est animal et le soja pour les humains, ce qui est complètement différent, qui est deux parties vraiment très différentes. Mais on a beaucoup de protéines, comme les haricots, les lentilles, le tofu aussi qui en est, le seitan, etc., etc. Donc on peut aussi avoir un régime, on va dire, semi-carné, plus flexi, pour ceux qui ne veulent pas passer directement en végétarien ou en végétarien. Italien et avoir une supplantation, on va dire, de protéines végétales sans aucun problème.
Et alors pour les enfants, on fait comment pour leur faire aimer les légumes?
En fait, c'est plus des astuces pour les enfants. Leur faire aimer les légumes, si vous leur mettez des haricots verts dans l'assiette comme ça, c'est sûr que ça va être compliqué. Il faut être intelligent avec les enfants, il faut camoufler un peu. C'est plus dans ce sens-là, parce qu'après, en goût, il n'y a pas vraiment de légumes qui ont des goûts, à part des choux, des choses comme ça, qui sont assez prononcées. Mais des épinards, sincèrement, si vous les cachez dans des pâtes, vous faites des pâtes avec l'épinard qui est broyé dedans, c'est un peu vert, mais vous pouvez un peu camoufler, ça passe. C'est surtout en fait le légume en tant que tel qui est un petit peu compliqué pour les enfants. Mais vous pouvez faire des carrot cakes, vous pouvez faire plein de choses.
Je crois aussi que vous avez un livre en préparation.
Complètement. Donc le livre s'appelle Origine animale. Il va être paru aux éditions Hachette, donc Le Chêne. Au mois d'octobre, on va bientôt donner les dates, etc. et les liens pour pouvoir le commander.
Et qu'est-ce qu'il y aura dans ce livre?
Beaucoup de recettes. Également une vision un peu de la cuisine, une vision propre de ma cuisine. Et également toutes des recettes de base aussi pour confectionner, par exemple, vos crèmes, vos beurres végétaux. Donc vous pouvez passer de la recette de base et faire tout le livre avec. Et vous pouvez aussi piquer des recettes dans les recettes qui sont déjà très étoffées.
Voilà. Merci beaucoup Claire Vallée d'avoir été avec nous.
Je vous en prie, merci de m'avoir reçue.
Depuis, d'autres chefs ont été récompensés partout dans le monde pour leur cuisine végétale, preuve que c'est bien une cuisine de plus en plus tendance, surtout chez les jeunes. D'ailleurs, une majorité de Français, on se dit aujourd'hui, prêt à réduire sa consommation de viande, c'est ce qu'on appelle les flexitariens. On trouve maintenant assez facilement quand même des recettes variées pour tous les goûts. Le légume, c'est plus seulement une garniture, c'est bien un plat à part entière. On commence même à l'enseigner dans les écoles de cuisine. Et c'est pas juste un effet de mode, il y a une vraie envie de retrouver une cuisine plus naturelle, plus responsable, plus saine, une envie de retrouver le rythme des saisons jusque dans les assiettes. Et ce sont même parfois des villes entières qui se passent de viande. Au sud de l'Angleterre, la petite ville de Haywards East vient de devenir la première ville végétalienne d'Europe. Pour ça, elle a signé un traité, le traité végétalien, qui encourage ses 34 000 habitants à ne plus consommer de produits d'origine animale. Dans le monde, 17 villes ont signé ce traité international, dont Buenos Aires, la capitale argentine, avec ses quand même presque 3 millions d'habitants. Et il y a fort à parier que d'autres suivront rapidement. Vous venez d'écouter Objectif Terre. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous. Nous sommes sur toutes les plateformes de streaming, le site et l'application RMC. À bientôt !